Musicopolis. Pergolèse, Naples, 1736. Dès sa création à Naples, le 5 septembre 1733, entre les actes du prisonnier superbe, la servante maîtresse de Pergolèse a remporté tous les suffrages. Elle va être exportée très vite, d'abord dans d'autres villes d'Italie, puis à l'étranger, notamment en France, où elle sera l'un des prétextes de la querelle des bouffons. Je vous renvoie à la série de Musicopolis sur Rameau. Alors que Pergolèse, sortie à 21 ans du Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ, a commencé sa carrière avec un drame sacré, alors qu'il est rompu à l'écriture de la musique d'église polyphonique, qu'il est aussi un virtuose du violon, on constate qu'à 23 ans, il est totalement maître du langage bouffe, dont il va devenir même un modèle. Entre parenthèses, tout ça prouve bien, d'une part, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les genres à Naples, et d'autre part que Pergolèse a dû souvent sortir du conservatoire pour assister à des spectacles comiques. Écoutez le premier air d'Uberto, le maître qui va se faire épouser par sa servante. Le texte est construit en une suite d'oppositions. Attendre et que rien ne vienne. Être au lit et ne pas dormir. Bien servir et ne pas être récompensé. Pour conclure avec une phrase définitive, sont trois choses à mourir. La musique de Pergolèse joue d'abord avec les oppositions, en changeant le débit du texte et en montant par paliers vers l'aigu pour donner une impression de surenchère. On arrive ensuite à un passage quasiment pathétique sur les trois choses à mourir. Le texte est alors redit à nouveau avec des répétitions de plus en plus rapides jusqu'à la fin et des climax comiques sur les notes les plus aiguës de la tessiture de basse. Le 23 février 1734, quelques mois après la création de la servante maîtresse, Pergolèse est nommé adjoint du maître de chapelle de la ville, Domenico Sarro. Comme les autres compositeurs napolitains de cette époque, Sarro a fait une double carrière dans la musique religieuse et au théâtre. Il fait partie du groupe de musiciens qui tiennent les postes importants des institutions musicales de Naples. C'est une aubaine pour Pergolèse, Et il doit cette nomination sans doute au fait qu'il a composé plusieurs œuvres en l'honneur de Saint Émidius, nommé patron de la ville après le tremblement de terre de 1732. L'année 1734 va voir de nombreux bouleversements à Naples. En mars, Charles de Bourbon, fils du roi d'Espagne Philippe V, fait le siège de la ville avec des troupes espagnoles dans le but de renverser les Autrichiens. Les combats, disent les chroniques, se déroulent dans un climat de courtoisie entre les deux armées, tandis que la ville est bombardée avec humanité par les Espagnols et que les Napolitains assistent aux batailles avec curiosité. Charles va faire une entrée triomphale dans la ville au mois de mai 1734. Les Napolitains sont ravis d'être débarrassés des Autrichiens et quelques jours plus tard, ils voient la liquéfaction du sang de Saint-Janvier comme un signe favorable pour le règne de ce jeune roi de 18 ans. Ils ont raison puisque Charles va faire beaucoup pour la ville. Il est aujourd'hui considéré comme un modèle de monarque éclairé, philosophe et philanthrope. La messe que Pergolèse a composée pour les cérémonies en l'honneur de Saint Émidius, après le tremblement de terre, est donnée à Rome peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Charles de Bourbon. Le jeune compositeur est peut-être dans la suite de son ancien mécène, le prince de Stigliano, un noble napolitain très proche des Habsbourg et qui a dû s'exiler suite au changement de régime. Cette messe fait grande impression à Rome, comme elle avait déjà fait impression à Naples. Le marquis de Villa Rosa, premier biographe de Pergolèse, raconte qu'avant de donner l'œuvre pour la première fois, notre musicien s'était rendu au conservatoire des Turchini pour inviter le maître Leonardo Leo à venir l'écouter. Leo, écrivait La Rosa, fit des gorges chaudes avec ses élèves, disant que, à peine sorti du conservatoire, Pergolèse l'avait invité à entendre la petite musique d'une autre messe qui ne volait pas très haut, car c'était sa première production, et qu'après 3 ou 4 mois, il avait l'audace de l'inviter à en écouter une seconde. Mais la nouvelle musique dépassa les attentes de Léo, qui la trouva absolument parfaite. De sorte qu'en public, il loua Pergolèse en l'étreignant affectueusement et fit de lui un éloge mérité auprès de ses élèves.
Thank you.
La messe de Pergolèse plaît tellement à Rome qu'on veut absolument entendre ce qu'il peut faire dans un opéra. Commande lui est donc passée pour janvier 1735. Mais en attendant, il doit célébrer l'anniversaire de la mère du roi en octobre 34 par un autre opéra donné à Naples au San Bartolomeo. Pour la première fois, il met en musique un texte de Métastase, le poète de la cour de Vienne. Le choix se porte sur Adriano in Syria, Adrien en Syrie. Pergolèse est le troisième compositeur à mettre ce récent texte en musique. 61 compositeurs le suivront encore jusqu'en 1828. Pour son Adriano in Syria, Pergolèse a un interprète de choix, le castra mezzo-soprano Caffarelli, star internationale qui a fait ses études à Naples avec Porpora. Un chanteur capricieux qui dicte sa loi et n'hésite pas à faire changer les paroles de ses arias. Mais Pergolèse se prête au jeu et il écrit pour lui quelques-uns de ses plus beaux airs, comme le Lieto così talvolta à la fin du premier acte, un air lent dans lequel le personnage a tout le temps d'exprimer ses sentiments, et le compositeur le temps de faire entendre un dialogue entre le hautbois et la voix. Je ne vous fais entendre qu'un petit extrait de cet air qui dure presque 13 minutes dans la version du contre-ténor Franco Fagioli avec la hautboïste Magdalena Karolak. C'est ainsi que tout joyeux chante le rossignol captif quand sa fidèle compagne répond à son chant et à la douleur d'aimer dont il se plaint tout en rêvant de liberté.
Thank you.
Dans Adriano in Syria, Pergolèse ne se contente pas d'écrire des airs expressifs pour Caffarelli, il lui écrit également des airs enflammés, dits airs de tempête. Et bien sûr, pendant les entractes, le public du San Bartolomeo de Naples peut assister à deux actes d'intermède bouffe, son Livietta et Tracolo, qui fera sa gloire à l'étranger tout autant que la servante maîtresse, et notamment à Paris pendant la querelle des bouffons. À peine finies les représentations d'Adriano, le jeune compositeur part pour Rome, où sera donné l'Olimpiade, son nouvel opéra seria. Il est un peu pressé par le temps et il va reprendre 5 airs d'Adriano. Ça n'a pas grande importance puisqu'Adriano n'a pas été entendu dans la ville papale. L'ouvrage n'a pas grand succès et c'est à cette occasion que se place une anecdote racontée par Gretry à la fin du siècle dans ses mémoires et qu'il aurait entendu de Egidio Duni. On osa lui jeter une orange sur la tête pendant qu'il était au clavecin pour conduire son ouvrage. Le chagrin renouvela son crachement de sang. Il était fréquent que les opéras ne trouvent pas leur public dès la création, même à l'époque de Pergolèse. Et à peine sera-t-il mort un an plus tard que l'Olimpiade sera considérée comme un chef-d'œuvre. Mais en cet automne 1735, il y a encore un ouvrage à composer pour le Teatro Nuovo de Naples, théâtre très récent, spacieux et moderne, qui s'est fait une spécialité des pièces comiques. Vedete quello girano, vedete quello girano, quando voi vi arrossecciate, un premone assomigliate, brosolano. Il Flaminio, le quatrième ouvrage comique de Pergolèse, est un succès au Teatro Nuovo de Naples à l'automne 1735. Un petit bijou de joie de vivre, alors que le jeune compositeur de 25 ans est certainement déjà très malade. C'est dans les premières semaines de 1736 qu'il se rend à Pouzzole, à quelques kilomètres du centre de Naples, pour se retirer dans le monastère des Franciscains. Francesco Feo, professeur au conservatoire Sant'Onofrio, vient le voir régulièrement et ne peut que constater la détérioration inéluctable de sa santé. Thank you. Jean-Baptiste a décidé de terminer les deux œuvres, religieuses toutes les deux, qu'il a en chantier. D'abord un Salve Regina. Lorsqu'il met en musique les paroles « Ad te clamamus »,« Vers toi nous jetons un cri », on peut imaginer que c'est en son propre nom qu'il s'adresse à la Vierge Marie. Alors qu'il se retirait au couvent des Franciscains, et en même temps qu'il travaille sur le Salve Regina, Pergolèse s'est aussi attelé à la dernière commande qu'il a reçue de la part d'une confrérie d'un Stabat Mater, qui doit remplacer dans les célébrations de la Semaine Sainte celui d'Alessandro Scarlatti, qu'on donnait jusque-là chaque année. C'est aujourd'hui l'œuvre de Pergolèse la plus enregistrée, et on peut souhaiter que les interprètes se penchent davantage sur les autres, les opéras notamment, dont certains n'ont pas encore fait l'objet de versions historiquement informées. Le Stabat Mater est la dernière œuvre que Pergolèse compose en 1736. Il va mourir le 16 mars, à 26 ans tout juste, après une carrière fulgurante qui s'est déroulée aussi bien dans la musique religieuse que dans l'opéra héroïque ou l'opéra bouffe. Sur la dernière page de la partition du Stabat, il écrit « Finis laos Deo »,« Fin, Dieu soit loué ». Quando corpus morietur, la fin du Stabat Mater de Pergolèse, Carlos Mena contre-ténor, Nuria Rial soprano et le Ricercar consort dirigé par Philippe Pierlot. Tout le programme, la réécoute et le podcast de toute cette série Pergolèse sont à présent sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Pascal Bénard pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.